Bonjour chers auditeurs, c'est si vous voulez me prêter vos oreilles, à l'animation Jasmine et à la technique Stéphane. Et aujourd'hui, on va parler d'un livre coup de cœur de Marie de Hanzel qui s'appelle « La chaleur du cœur empêche nos corps de rouiller, vieillir sans être vieux ». Marie de Hanzel est psychologue clinicienne, pionnière du développement et de la reconnaissance des soins palliatifs. Elle a travaillé 10 ans auprès des malades avant d'être chargée de mission au ministère de la Santé sur les questions de la fin de vie. Elle a reçu les insignes de chevalier de la Légion d'honneur. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler particulièrement d'histoire de bien-être. Vieillir est le processus même de la vie. Et nous pouvons entrer dans le troisième âge sereinement, le cœur léger et assuré d'avoir encore devant soi de belles années pour s'épanouir. Forte de son expérience personnelle et professionnelle, Marie de Hanzel nous apprend à apprivoiser nos sentiments et à garder foi en l'amour. Un témoignage précieux pour maîtriser l'art de bien vieillir. Avant-propos, il n'y a pas plus vieux que de ne vouloir pas vieillir. C'est ce que fait ma génération. Notre monde nous renvoie une image désastreuse de la vieillesse. Nous avons peur de mal vieillir, de finir seul, mal aimé, peut-être dépendant ou dément, dans des lieux sans vie, loin de tout. Nous conjurons cette peur au lieu de l'affronter en nous accrochant à notre jeunesse, dans un déni un peu pathétique. Ce faisant, nous risquons de manquer ce que j'appelle ici le travail de vieillir, c'est-à-dire l'expérience d'une conscience heureuse du vieillissement. Lorsque je me suis attelée à l'écriture de ce livre, j'ai éprouvé moi aussi un sentiment d'horreur à la lecture de certains documents ou à l'écoute de certains témoignages malheureux. Mais d'autres m'ont convaincu que le pire n'est pas sûr. Les clés pour une vieillesse digne d'être vécue existent. C'est bien à notre génération qu'il appartient de les promouvoir. C'est à nous, les baby boomers, qu'il revient d'inventer un nouvel art de vieillir, paradoxal, car il s'agit d'accepter de vieillir sans pour autant devenir vieux. Comment devenir des porte-bonheur et non pas des poisons pour notre entourage ? Vous l'avez deviné, le fil rouge vous guidera notre exploration. C'est la conviction que quelque chose en nous ne vieillit pas. Je l'appellerai le cœur. Non pas l'organe qui lui vieillit, bien sûr, mais la capacité d'aimer et de désirer. Cette force inexplicable, incompréhensible, qui tient l'être humain en vie et que Spinoza a baptisé conatus, l'intentionnalité vitale. C'est le cœur qui peut nous aider à dépasser nos peurs et nous soutenir au milieu des 1000 épreuves de la vieillesse. J'écris pour ma génération. L'abbé Pierre vient de mourir. J'ai fait 1 heure de queue rue Saint-Jacques pour aller m'incliner devant son cercueil, dans la chapelle du Val-de-Grâce. Une immense photo accrochée aux grilles de l'hôpital dévoile aux passants un visage qui les bouleverse. On y lit un profond tourment et une immense tendresse. L'abbé Pierre disait qu'il faut toujours garder les 2 yeux ouverts, un œil ouvert sur la misère du monde pour la combattre, un œil ouvert sur sa beauté ineffable pour rendre grâce. Je viens de consacrer 2 ans à écrire sur l'expérience de vieillir et j'ai tenté tout au long de cette méditation sur l'avancée en âge de garder les 2 yeux ouverts, un œil sur tous les maux qui nous font si peur, un œil sur les joies qu'elle nous réserve. J'ai tenté pour cela de me tenir à distance du catastrophisme, de la sinistrose ambiante, qui ne voit dans cet âge de la vie que désastre, sans pour autant tomber dans l'euphorie du mythe de la vieillesse heureuse. Cela n'a pas été facile. Le regard que notre société porte sur le grand âge est terrible. Les mots de naufrage, d'horreur, de désastre qui nous viennent aux lèvres disent le dégoût et la peur que nous inspire la vieillesse, la souffrance de vieillir et la mort. Et puis un jour, quelque chose en moi a refusé cette image désastreuse. Quelque chose en moi a soudain décidé de réagir. On pourrait dire que l'autre œil, celui qui voit la face positive de la vie, s'est ouvert. Ce livre est donc l'histoire d'un retournement. Il a fallu que j'entre au cœur des souffrances et des peurs que génère l'expérience de vieillir pour comprendre tout ce qu'elle apporte en termes d'aventure humaine et spirituelle. Tout a commencé il y a 4 ans. Le pasteur Ouzio m'avait invité à participer à l'une des célèbres conférences de l'Étoile. En compagnie de Paul-Laurent Assoun et de Jean-Denis Bredin, nous avons animé une soirée consacrée à la question « Comment accepter de vieillir ?». C'est en préparant cette conférence que j'ai découvert l'île d'Okinawa et ses centenaires. Là-bas, au Japon, sur cette île que l'OMS a baptisée « Région de la longévité », les gens vivent très vieux. La doyenne a 115 ans et est très heureux, car ils sont considérés comme des porte-bonheur. Les chercheurs du monde entier se sont évidemment penchés sur leur secret. On sait qu'il n'est pas génétique, puisque dès qu'un habitant de l'île émigre ailleurs et perd ses habitudes, son espérance de vie s'en trouve diminuée. Il y a bien sûr des raisons liées à la douceur du climat et à la manière de se nourrir. Les habitants d'Okinawa mangent peu et lentement, savourent chaque bouchée et s'arrête avant de se sentir trop lourd. Ils consomment du poisson, du soja, des algues riches en iode et en calcium, l'incontournable riz, du thé vert riche en diurétique, jamais de sucrerie ni de pâtisserie. Mais le contenu de leur assiette n'explique pas tout. L'extraordinaire longévité de ces Japonais, comme leur bonheur d'être vieux, tient aussi à leur état d'esprit et à leur vie sociale très développée. Il y a chez ces centenaires une conscience spirituelle élevée, nourrie de pratiques comme la prière, la méditation, l'attention au présent, une volonté de rester positif dans les difficultés et de conserver leur optimisme. Ils ont cette faculté précieuse de ne pas se laisser abattre et de rebondir, qu'on appelle le courage de vivre. Une vitalité, un dynamisme, une énergie du cœur. Telles sont les clés de leur jeunesse intérieure, comme en témoigne le refrain qu'ils chantent tous les matins « La chaleur du cœur empêche nos corps de rouiller ». Enfin, ils continuent de participer à la vie de la communauté. Les échanges entre amis, voisins et membres d'une même famille sont quotidiens. Le « oui, maru », l'esprit d'entraide, y est très enraciné. Ils pratiquent ensemble le jardinage, la marche et le tai chi. Bref, ils sont heureux de vivre vieux et ce bonheur les protège, bien évidemment, de tout sentiment d'exclusion. Ils n'ont pas l'impression de représenter un poids pour la société, au contraire. Tu suis ya takara. Les vieux sont notre trésor, dit-on à Okinawa. Magnifique, illustré de 50 photos en noir et blanc, Il n'y a que toi et les oiseaux, célèbre la beauté de la vieillesse. Son auteur, Michel Bonny, a 22 ans. Il vit dans une chambre mansardée de 8 mètres carrés au faubourg du Temple à Paris. Il va et vient de sa chambre à ses cours de théâtre, au cirque où il présente un spectacle. Sa voisine est une vieille femme alors âgée de 92 ans, Yvonne, avec laquelle il noue une relation d'amitié rare. Elle, Yvonne, avec ses 92 ans, passait le plus clair de son temps dans la chambre à lire, à écouter la radio, à écrire, à préparer ses repas, mais surtout à rêver et à réciter pour la beauté du texte et pour continuer à exercer sa mémoire une tirade de Corneille, un poème de Rimbaud, si ce n'était une prière au bon Dieu. Car toute croyante qu'elle était, elle avait depuis longtemps considéré que la maison de Dieu se trouve dans le cœur des hommes. Les photos de Michel Bonny disent les rides, les cheveux blancs, l'usure, mais aussi la grandeur et l'humour d'une vieille dame très digne. Il les engrange pendant les 10 ans de leur amitié. Et puis un jour, en les montrant à ses proches, il se rend compte qu'elles sont le plus cinglant démenti à un De Gaulle. La vieillesse est un naufrage, à un Mauriac, il n'y a pas de beau vieillard, et à tous ceux qui s'apitoient, s'apeurent ou détournent la tête devant les trop anciens. Le texte qui accompagne les photos dit la singularité de cette amitié qui a changé l'auteur en profondeur. Aujourd'hui, je ne serais pas ce que je suis sans son écoute aimante et la façon qu'elle avait de dédramatiser les moindres situations. Et puis Yvonne avait un appétit de vie incroyable. Elle m'a appris l'espoir. Grâce à elle, je n'ai plus le même rapport à la vieillesse, à commencer par la mienne. Il ne nous suffisait plus de parler. Nous allions jusqu'à faire circuler un cahier de porte à porte sur lequel des écrits sur la mort, sur l'amour, sur l'humilité venaient s'intercaler entre les articles de journaux et les recettes de cuisine. Yvonne est décédée à 100 ans. Le jour où l'on pourra regarder des images de vieilles personnes avec émotion, s'identifier à elle sans réticence, se dire que l'on aimerait être comme elle. Lorsqu'on sera vieux, ce jour-là, notre société aura fait un pas de géant. Question autour du grand âge. Après cette émission, fortement impressionnée par le retournement d'opinion qui avait eu lieu sur le plateau de la Reine de France, j'ai décidé de reprendre les unes après les autres les peurs et les questions angoissantes qui m'avaient assaillie au début de mon enquête. Nous, les jeunes seniors, avons encore des parents en vie qui ont atteint le grand âge. Ils ne nous donnent pas toujours une image enviable de la grande vieillesse. Certains sont devenus dépendants ou déments. Il nous a fallu les placer, non sans chagrin, non sans culpabilité, dans des maisons de retraite ou des établissements spécialisés. Nous n'avons pas tous les moyens de leur permettre de vieillir chez eux, avec une personne à demeure, ni la volonté de les prendre chez nous. Nous avons donc accompagné nos parents avec cette interrogation chevillée en notre fort intérieur. Vieillirons-nous seuls, avec le sentiment d'être inutiles ? Serons-nous parqués, nous aussi, dans ces ghettos pour vieux que sont les maisons de retraite ? Terminerons-nous notre vie dans la nuit de la démence ? Même s'il reste encore beaucoup à faire afin que les résidences pour personnes âgées, dépendantes ou démentes, soient de vrais lieux de vie, il existe déjà bien des modèles d'humanité dans ce domaine. Enfin, il faut le reconnaître, les instances dirigeantes sont conscientes de l'enjeu de santé publique que représente le vieillissement de la population. Elles ont annoncé bon nombre de plans et il nous appartiendra aussi de vieillir à ce qu'il soit suivi de mesures concrètes pour répondre aux craintes qui nous habitent. Mais toutes ces initiatives, ces plans, ne seront efficaces que si notre génération, celle des 55 à 75 ans, la génération pivot entre les aînés et les plus jeunes, prend conscience de l'enjeu majeur de la solidarité. Nous sommes le maillon fort de la chaîne de solidarité en France, déclarait récemment un ministre. À nous de développer toutes ces bonnes idées qui fleurissent un peu partout. Ces cafés des âges qui permettent les rencontres entre générations, ces logements sociaux qui regroupent des couples jeunes avec enfants en bas âge et des retraités. On sait à quel point les personnes âgées aiment le contact avec les tout-petits. J'en ai été convaincue le jour où j'ai vu une jeune femme apporter son bébé de 6 mois et le poser sur le lit de son grand-père, mourant à l'hôpital. J'ai vu le vieil homme, au regard un peu perdu et triste, se redresser, son visage s'éclairer d'un beau sourire et la joie de traverser. Une amie américaine m'apprend qu'il existe un espace public situé dans un centre commercial aux États-Unis où les parents peuvent laisser leur bébé pendant qu'ils font leurs courses. Ce sont des personnes âgées volontaires, encadrées par une assistante maternelle agréée, qui viennent s'occuper des jeunes enfants. On imagine le bien réciproque de tels contacts. Je crois que nous mesurons mal tout ce que nous avons perdu avec les changements sociologiques des dernières décennies. Ces contacts entre grands-parents et petits-enfants se faisaient naturellement du temps des familles élargies, vivant sous le même toit. Faut-il être tombé bien bas sur l'échelle du cloisonnement des âges pour qu'il faille maintenant faire appel à une association pour établir des liens du cœur entre générations ? Jérôme, un jeune étudiant de Sciences Po, rencontré récemment chez des amis, m'a raconté qu'il vivait chez une vieille dame de 85 ans, dans un grand appartement du quartier latin. Il a eu connaissance de l'opération « Un toit, deux générations », soutenue par les étudiants de son école, lesquels ont d'ailleurs rédigé la charte de convention d'hébergement, qui repose sur un engagement réciproque de discrétion, de respect, de confiance et de tolérance. Contre de la présence et des menus services, comme de changer une ampoule cassée, de monter des bouteilles d'eau, il est donc confortablement logé dans une chambre avec salle de bain. 3 fois par semaine, il passe sa soirée avec cette vieille dame très cultivée, veuve d'un professeur de droit, mais très seule, car elle n'a pas d'enfant. Parfois, elle emmène au restaurant, mais le plus souvent, il dîne chez elle et écoute de la musique ou regarde un film ensemble. Le fait de partager avec un jeune homme ses moments de détente la stimule. Elle se sent rajeunir. Quant à lui, il apprend beaucoup d'elle, car elle a beaucoup voyagé et elle lui raconte avec humour les aventures qu'elle a vécues. Nous avons peur de devenir transparents, de ne plus intéresser personne. Ce que vous aviez de précieux et d'important à transmettre n'intéresse plus vos décédents. Quant à votre expérience, c'est bien simple. Elle les fait chier, écrit Benoît Groulx. Ils n'attendent plus de surprises de nous, sinon l'infarctus, la fracture du fémur, l'accident vasculaire cérébral ou la lente horreur de l'Alzheimer. Comment les surprendre, se demande-t-elle. C'est bien à notre génération de lutter contre cette mise à l'écart des aînés et de valoriser tout ce qu'ils peuvent nous apporter. Pourquoi ne pas s'inspirer de cette expérience américaine ? Dans certains quartiers de New York, se mettent en place des cercles des aînés pour permettre à ceux qui souffrent de se sentir inutiles et seuls de transmettre aux générations plus jeunes un savoir sur la vie. Dans ces cercles, les personnes les plus âgées s'assoient en rond, au centre, et les plus jeunes en périphérie. Conformément à la tradition des Indiens d'Amérique, un bâton de parole est placé au centre. Les aînés peuvent, dès qu'ils le souhaitent, aller le chercher et revenir à leur place. Ils partagent alors leur expérience et leurs réflexions avec le reste du groupe. S'élabore ainsi une sagesse collective à laquelle chacun apporte sa contribution. Claudine Attia-Donfu est aussi à l'initiative d'un travail remarquable mené en collaboration avec la Fondation nationale de gérontologie. L'on a proposé à des octogénaires et des nonagénaires d'écrire des lettres à l'intention de leurs petits-enfants. Ces lettres, de personnes réduites au silence par notre société, constituent un document inédit. Presque toutes les lettres ont été rédigées par les femmes. Elles y parlent de leur joie et de leurs souffrances, de la vie passée, de la vie présente. L'une d'elles m'a particulièrement touchée parce qu'elle s'adresse à la conscience de chacun d'entre nous. C'est une femme de 90 ans qui écrit à ses chers petits-enfants qui ont pris à sa place la décision de la mettre en maison de retraite. Je voudrais dire aux familles, discutez avec vos parents. C'est leur vie que vous manipulez. Nous ne sommes pas des jouets. À notre âge, nous prenons tout à cœur. Un rien nous fait du mal. Alors s'il vous plaît, ne nous considérez pas comme des pantins dénués de sentiments dès que nous commençons à être encombrants. Parlez-nous. Laissez-nous être un peu acteurs de notre vie. Merci. De ce livre a été écrite dans la petite maison que j'ai fait construire sur l'île Dieu. Au cours d'un dîner avec des amis, nous avons parlé de notre vieillesse et du lieu où nous aimerions vieillir. Aucun de ceux qui ont participé à ce dîner ne voulait terminer sa vie dans une maison de retraite. J'ai vérifié une fois de plus l'horreur que cette pensée suscite parmi les hommes et les femmes de ma génération. Il faudrait que nous inventions quelque chose comme un béguinage, ai-je suggéré. Au Moyen-Âge, en Belgique, des veuves se rassemblaient par huit pour former une petite communauté de personnes vieillissantes, décidées à s'entraider dans cette dernière phase de la vie. Elles habitaient seules, dans des petites maisons collées les unes aux autres, autour d'une église et d'un jardin. Il s'agissait de vivre ensemble, tout en respectant la liberté de chacune, dans un engagement de solidarité et de partage. À l'époque, le partage se faisait autour du jardinage et des liturgies religieuses. Lorsque l'une d'elles mourait, les autres l'accompagnaient, puis elles coptaient une nouvelle béguine. Puisque nous aimons tellement cette île, que nous avons la chance pour certains d'y avoir un toit, et que nos maisons sont si proches, les unes des autres, pourquoi ne formions-nous pas un béguinage moderne, un béguinage mixte, évidemment. Chacun vivrait chez lui, aurait sa liberté, mais nous inventerions des activités communes, marcher autour de l'île, jardiner ensemble, et pourquoi pas nous retrouver régulièrement autour d'une pratique spirituelle comme la méditation ou la contemplation. Et si l'un de nous tombe malade ou même devient dépendant, nous pourrions nous relayer auprès de lui pour qu'il puisse rester chez lui, au lieu d'aller dans une résidence pour personnes âgées. Il y aurait un contrat de solidarité entre nous. Merci chers auditeurs, en vous souhaitant un heureux week-end et à la semaine prochaine.